Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 euro par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue. L'actualité économique est un peu politique. Faut être honnête, aujourd'hui, 182 sièges pour le nouveau Front Populaire, 163 pour Ensemble pour la République, 68 pour les Républicains, 143 pour le RN. Que nous dit cette nouvelle Assemblée nationale? Comment vont réagir les marchés? On a déjà les éléments de réponse, donc ça, on va vite passer, je pense. Mais on va quand même se poser la question, on est sur BFM Business. Est-ce qu'il y a du grain à moudre pour construire une sorte de programme commun qui réunirait dans une forme de nouvelle majorité une partie de la gauche avec Ensemble? En tout cas, il y a un marqueur à gauche, c'est la fameuse réforme des retraites et son abrogation. On peut se dire qu'on va aller vers un peu plus de politique de la demande et peut-être un peu moins de politique de l'offre. Les législatives ont aussi alimenté une bataille chez les économistes. J'en ai parlé à Aix-en-Provence avec les membres du Cercle des économistes. C'était vendredi entre 9h et 10h. Christian Gollier, économiste à l'École d'économie de Toulouse, signe une tribune à ce sujet dans les colonnes des Échos aujourd'hui. Et puis on pourrait évoquer la place d'Emmanuel Macron en Europe. Est-il aujourd'hui, alors qu'il a été au centre de pratiquement tous les grands sujets, aujourd'hui est-il définitivement démonétisé au niveau européen? Bonjour Jean-Marc Daniel.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, auteur de Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Frédéric Farah, bonjour.
Bonjour.
Économiste, enseignant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous avez publié No Frexit, ce que les jeunes pensent de l'Europe chez Fayard. On avait un débat avant l'antenne sur la chocolatine et on se disait qu'on allait faire la chocolatine et Bretton Woods.
Ah oui,
mais et là, j'apprends génial. Qu'on est aux 80 ans de Bretton Woods.
Absolument. Bah oui. Bretton Woods, ça s'est passé du 1er au 22 juillet et je rappelle que, alors tout le monde parle de Keynes, tout le monde.
Bonjour.
Oui, oui, on va lui dire. Mais je rappelle juste une chose, le représentant de la France à Bretton Woods, c'était Pierre Mendès France. C'était pas n'importe qui. Donc la France tenait à envoyer quelqu'un d'important et de prestigieux parce que c'était un événement qu'on considérait comme étant important.
Mais c'est passionnant l'histoire de Bretton Woods. Moi j'adore ça.
Le point de départ était de savoir si on avait le droit de dire pain au chocolat.
Ouais. Non, ça nous sommes d'accord avec la nouvelle personne que vous allez présenter.
Ah, ouais, voilà. Non. Qui a exprimé avec force son refus.
C'est un message clair qu'on peut tirer des législatives. Voilà, désormais on dit chocolatine.
Ah, d'accord. Voilà. Xavier Thimbaud.
Donc Xavier Thimbaud.
Directeur principal de l'OFCE. Prochain bouquin, alors, la chocolatine et Bretton Woods.
Ouais, mais exactement. Bon, ça, aux éditions, on verra laquelle, oui, peut-être. Aux éditions, la découverte du pain au chocolat. Non, et de la chocolatine, peut-être.
Non, on laisse le pain au chocolat à ceux qui aiment le pain.
Et le chocolat dedans. Voilà.
Et si on est gourmand, on met du beurre.
C'est ça.
Bien. Et pas de la margarine.
Ah non, il y a quand même des limites.
Et des limites. Des attention, limites. Retour des topinambours et tout ça.
En 44, c'était topinambours.
Oui, c'était topinambours.
À l'époque des Bretton Woods, c'était près, Xavier.
C'était topinambours.
Et il y avait encore des tickets de.
Bon. Ah oui, ils ont duré jusqu'en 49.
Exactement.
Les tickets de rationnement.
Oui, jusqu'en 49, ouais.
Et les baby-boomers que l'on désigne comme étant à l'origine de tous nos maux ont commencé avec des tickets d'alimentation, quand même.
Donc avant, c'était pas forcément mieux.
Oui, donc faut.
Mais non. Et il faut quand même pas oublier que les 30 Glorieuses de 46 à 54, c'est les guerres coloniales.
Moi, j'ai pas connu cette époque.
Et de 46 à 62, pas à 64.
Moi,
54.
J'ai connu la.
Les tickets d'alimentation, je pense que personne autour de cette table ne les a connus, quand même.
On aurait pu évoquer aussi le premier hypermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois en 63.
Oui. C'est Leclerc.
Non, c'était pas Leclerc. C'était, je crois, Carrefour.
Oui. Enfin, en tout cas, c'est devenu Carrefour.
C'est devenu Carrefour.
Ouais.
Ouais. Ouais. Donc, voilà.
4,50 francs la baguette.
Précisément parce qu'il était à un Carrefour.
Ah oui,
c'est
pour ça.
Ah oui, c'est vraiment pour ça.
Excellent, je ne savais pas. C'est vrai, pourquoi Carrefour? Alors Auchan, c'est parce qu'on était...
Exactement, c'est parce qu'on était sur un champ.
Al Campo.
On allait au champ, ouais. Absolument.
Bon. Et qui se souvient de Suma aussi?
Quoi?
Suma. Ah. Suma, le groupe Suma.
Le groupe Suma, oui, ouais. Il y a plusieurs, plusieurs supermarchés.
Supermarché, Suma.
Allez, Félix Potin aussi. Hein. Bon,
un ami aussi. C'était quoi, Félix Potin? un ami, je sais plus quoi.
C'est... Il vous veut du bien.
Ouais, un truc. Non, je sais pas. Non, j'allais confondre avec les pharmacies canadiennes Jean Coutu, mais ça c'est autre chose.
Bon. Cette émission s'appelle Les Experts, messieurs. Ah, la bouteille. Bon, allez, la nouvelle assemblée là. Qu'est-ce que ça vous inspire? Première réaction, Jean-Marc. Pas trop long, mais c'est quand même la donne là. On est.
Oui, oui. Alors, évidemment, tout le monde a été un peu surpris des résultats en termes de nombre de députés, notamment pour le Rassemblement National. Les projections annonçaient beaucoup plus de députés. En fait, quand on s'aperçoit, quand on regarde les circonscriptions par circonscription, ça s'est joué à très peu de voix dans beaucoup d'endroits. Et le Front National,
le Rassemblement National,
l'ancien Front National, fait quand même plus de 8 millions de suffrages.
Et en termes plus de voix que NF.
Voilà, plus de voix que le nouveau Front Populaire. La deuxième remarque que je ferais, c'est qu'il va falloir trouver une majorité. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation qui rappelle ce qu'était la 4e République, c'est-à-dire un bloc de gauche et un bloc de droite qui ont vocation à être dans l'opposition, et un bloc central qui a du mal à se constituer, à trouver et à conserver la majorité. Donc, il y avait...
Et on va en parler, et notamment qu'est-ce qui peut les réunir en termes d'éléments constitutifs du projet économique.
Et donc le véritable problème, je pense, c'est de constituer une majorité centrale, sachant que je pense que les deux blocs à la gauche et à la droite n'ont pas vocation, et ne cherchent pas d'ailleurs à gouverner. J'interprète la déclaration très rapide hier de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, comme étant non pas un appel à devenir Premier ministre, mais un avertissement à ses associés, à ses alliés, à ne pas l'abandonner, à ne pas le trahir. Et pourquoi ? Parce que quand vous regardez sur le plan purement arithmétique, les Républicains ensemble et le Parti Socialiste, ça constitue une majorité. Et
absolue.
Donc, absolue. Oui. Et donc, il y a un certain nombre d'ailleurs de leaders d'ensemble qui appellent à une sorte de constitution de cette majorité, majorité modérée, de gestion, capable effectivement de faire passer un certain nombre de réformes. Et donc, la dernière remarque que je ferai, c'est que parmi les enjeux et les réformes, effectivement, on a beaucoup parlé de la retraite et tout ça, mais la situation globale des finances publiques est certainement le sujet d'inquiétude le plus marquant dans les mois à venir.
C'est ce qui me pousse à être pensé que c'est vraiment le moment du budget 2025 où on aura une idée claire de la direction que nous prenons. Il y a Richard qui me dit merci d'avoir statué sur la chocolatine.
C'est important. Et Bretton Woods ou pas ?
Non, la Bretton Woods, non.
Non, d'accord.
J'espère qu'il est du côté des partisans de la chocolatine.
Je croyais que vous voulez taux fixe, taux de change fixe.
J'espère qu'il a bien compris que c'était la civilisation qui portait la chocolatine.
Au-delà de la chocolatine, vous êtes favorable au taux de change fixe.
Totalement.
Pour vous, c'est Guy Mollet 56, Frédéric Farah.
Ben, puisque j'aime beaucoup l'histoire, qu'est-ce que disait Guy Mollet après la dissolution d'Edgar Faure en décembre 55? Il voit l'état du Parlement et dit, donc c'est un Parlement des minorités. Voilà, il dit ça. Donc, je pense que, bon, sans vouloir ressusciter Guy Mollet, qui n'a pas laissé à tout le monde des souvenirs impérissables, eh bien, oui, c'est le Parlement des minorités. Au-delà de ça, ce qui est assez étonnant, c'est de voir que on est quand même un pays qui a une capacité d'adaptation incroyable, parce que lors du premier tour, ce nouveau Front Populaire n'existait pas. En peu de temps, il se constitue, et même si, effectivement, on peut dire qu'il n'a pas le même nombre de voix que le RN, il arrive à amener, du fait du mode de scrutin, un certain nombre de députés et de constituer, on peut pas dire une majorité, mais en tout cas une force significative. Alors que c'était quelque chose, une formule politique qui n'existait pas il y a encore 3 semaines. Donc ce qui est quand même aussi le signe de la capacité de se mobiliser de certaines parties de l'électorat et aussi de la classe politique. D'autre part, qu'est-ce que ça dit? Ça dit aussi, même si les forces de M. Macron ont bénéficié largement du désistement républicain, on va dire que les stratégies d'Emmanuel Macron n'ont pas abouti à ce qu'elles espéraient. C'est-à-dire, en gros, cette espèce de face-à-face avec le RN, en espérant permettre en 2027 un candidat qui aurait été plus proche pour la présidentielle, puisque lui ne peut pas se présenter. Et troisièmement, c'est que on est dans une situation qui est quand même inquiétante d'un point de vue, j'ai envie de dire, économique, parce que cette dissolution un peu folle qui est sortie de nulle part nous oblige aussi à régler des problèmes économiques qui sont là. On parlait de la question budgétaire, on a un problème aussi lié à notre productivité, on a des engagements européens, on doit accueillir aussi les Jeux Olympiques, on a quand même un agenda économique très chargé, et le président s'est autorisé un peu une espèce de folie personnelle, un peu étrange, et qui place le pays en grande difficulté. Et à mon avis, effectivement, pour reprendre toujours la 4e République, Edgar Faure avait tenté cette idée en disant il faut une majorité d'idées. il avait dit ça. Eh ben, je crois qu'il va falloir peut-être trouver un compromis, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas une seule formation qui pourra présenter un Premier ministre qui ne risquerait pas de se faire censurer. Donc forcément, ou sinon, on se retrouve dans une situation que l'on ne connaît pas, une situation à l'italienne, c'est-à-dire le gouvernement technique. C'est-à-dire un gouvernement qui est chargé.
On s'est demandé ce matin qui serait la tête de ce gouvernement
technique.
On a parlé de Christine Lagarde, on a parlé donc, de François Villeroy de Galhau.
Et qui est mais propre à l'histoire italienne, donc les Italiens ont déjà expérimenté ça plusieurs fois.
Oui, 4 fois depuis l'après-guerre.
Voilà. Ouais. Donc, nous, c'est pas notre histoire, mais peut-être c'est vers ça qu'on va, puisqu'on arrive à inventer des formules de dernière minute.
Oui. Réaction, Xavier Thimbault, ou sinon, je vais directement sur les réactions de marché, mais...
Non, je pense quand même que la crise politique et la crise de régime n'est pas terminée.
Ah oui, ça...
Et en particulier pour une raison, c'est qu'on aurait tort de croire qu'on entre maintenant dans un régime proportionnel, où on va avoir une assemblée qui va être obligée de faire des compromis, alors que la façon dont elle est construite, cette assemblée, c'est sur un système qui vise à donner une majorité. Et je vous rappelle que le Parti Socialiste, la France Insoumise et les écologistes étaient dans une coalition. Et donc c'est compliqué pour des partis qui se sont fait élire sur une coalition d'ensuite considérer qu'ils ont des sièges dont ils tirent la complète légitimité. Et donc on n'est pas dans un schéma aujourd'hui où ils ont une totale liberté pour utiliser leur nombre de sièges à l'Assemblée comme étant représentatif de leur poids. Parce qu'en fait, ce nombre de sièges, il a été négocié entre eux dans la coalition. Et donc il n'a pas une signification très forte. Donc voilà, on est quand même dans un système qui est, de ce point de vue-là, vraiment entre deux eaux, au milieu du guet, entre un système plutôt qui vise à donner une majorité à l'Assemblée, mais qui a échoué, et qui est quand même qui est quand même un résultat inattendu, parce que vraiment, la prime majoritaire, elle doit éviter ce genre de situation. Et puis, un système qui serait proportionnel, qui, lui, permettrait à chacun de se compter et ensuite de pouvoir, en toute liberté, participer à telle ou telle coalition.
Ils sont nombreux à souhaiter ça.
Hein, oui, mais beaucoup on n'est pas dans un système proportionnel. Pas, et ça, c'est quand même embêtant. Donc, moi, je pense que si on veut sortir vraiment de cette crise de régime, il faut commencer par réfléchir à cette question. Il est tout à fait possible et souhaitable d'avoir un système proportionnel. C'est généralement des systèmes politiques qui sont plus mûrs, qui sont plus à même de prendre en compte la diversité d'une situation politique telle qu'on la connaît aujourd'hui, et qui évite d'avoir un parti minoritaire qui se retrouve avec tous les pouvoirs, et qui est exactement la situation que tout le monde veut éviter. Mais si on fait ça, il faut un système électoral qui traduise ça. Parce que là, le système électoral, il traduit pas
ça.
Là
où vous avez totalement raison, c'est qu'il y a un système électoral qui traduit la volonté populaire. Et quand vous prenez l'Assemblée du 30 et l'Assemblée du 7, c'est quand même jour-nuit. Hein.
Voilà, c'est ça.
Oui, mais je pense qu'il y en a certains qui ont un peu un sentiment de hold-up.
C'est,
hein.
c'est un double jour-nuit, hein, Nicolas. Parce que, par ailleurs, comme chacun sait que le système est comme ça... Chacun vote dans ce système de façon stratégique ou tactique, et donc voilà, il n'y a pas de, enfin, je veux dire, un système à la proportionnelle a des implications assez fortes, y compris dans la façon dont les gens votent. Donc on peut pas considérer que ces élections sont des sondages, qu'elles nous donnent le poids relatif dans la population des différents partis. De toute façon, les offres politiques que les partis font dans ce cas-là, en fait, n'ont rien à voir avec ce que les gens veulent attendre. Les gens ne votent pas nécessairement pour le parti qui leur plaît le plus, mais souvent pour celui qui méprise le moins. Donc, enfin, tout ça fait que on aurait tort de vouloir interpréter le résultat de cette assemblée comme reflétant une réalité politique. C'est plus compliqué que ça, et du coup, c'est beaucoup plus fragile.
Oui, et on avance après. Frédéric Farah, allez-y.
Donc, je réagirai quand même.
Alors, vous réagirez.
Il y a notamment sur la 4e République, je ne suis pas du tout d'accord.
D'accord, d'accord. Et sur la proportionnelle, vous me direz
sur Guy Mollet et tout ça, je ne suis pas du tout
d'accord. Ah bon, d'accord.
Il ne s'agissait pas pour moi ni de le soutenir ni de le défendre, c'était juste une référence.
Oui, mais justement, je ne suis pas d'accord avec
vous. Vous n'êtes pas d'accord, mais allez-y.
Bon, alors, on va. On se disputera tout à l'heure avec bonheur. Mais j'ai hâte d'ailleurs. Mais cela étant dit, effectivement, la marque de fabrique de la 5e République, c'était la stabilité. Elle a été vendue par le gaullisme en disant, parce que comment la 4e République nous est présentée ? Elle nous est présentée souvent à travers les yeux des gaullistes. C'est-à-dire que la 4e République, c'est le bazar, c'est le foutoir, etc. Et tout, c'est épouvantable. Et là, la 5e République nous apporte la stabilité. J'ai toujours trouvé qu'on a été toujours très injuste à la guerre de la 4e République et son bilan. Mais ça, c'est une autre histoire. Et là, on voit qu'on se retrouve avec une instabilité en tant que telle. Et d'ailleurs, ce mode de scrutin, il fonctionnait surtout bien lorsqu'on avait une position où on avait une droite qui était bien au rendez-vous, à l'époque du RPR par exemple, et en face un PS qui était majoritaire. Tant qu'on était dans ce genre de configuration,
c'est classique,
ça marchait bien.
Comme ça.
À partir du moment où...
On ne fait pas trop de politique, on n'est pas pour faire de l'économie.
Une fois que ce système, ne fonctionne plus, évidemment, ce qui est inquiétant, et ça concerne l'économie plus que jamais, c'est que le pouvoir va être rapatrié dans un endroit qui a été largement marginalisé ces dernières années, toutes parties confondues, qui est le Parlement. Et donc, comme on n'a plus l'habitude de penser le Parlement comme autre chose qu'une chambre d'enregistrement, ce qu'il était devenu dans les faits, aujourd'hui, même pour les questions économiques, se retrouver à débat dans un Parlement qui a vraiment un certain pouvoir, ou même qui n'en a relativement, alors qu'avant, il n'était qu'une chambre d'enregistrement, ça ne va pas être simple, et il faut réapprendre toute une logique parlementaire qui avait été complètement désertée. Alors, Jean-Marc,
pas trop long, parce que je veux avancer.
Non, mais je ne suis pas du tout d'accord avec tout ça. D'abord, je maintiens la 4e République, quand Guy Mollet prend le pouvoir en 1956, c'est là qu'il a cette formule, il est à gauche et tout ça, mais il dit surtout, le Parti communiste n'est pas à gauche, n'est pas à droite, le Parti communiste est à l'Est. Et donc il considère qu'il y a un vrai parti dans qui est un système dont les considérations sont dictées par des considérations politiques, géopolitique internationale, et avec une vision qui ne concerne pas immédiatement les Français.
D'accord.
Et on pourrait considérer que il y a un certain nombre de gens qui ont dit que LFI est dans la même logique.
Que LFI... Il y en a d'autres qui ont dit que le Rassemblement National était dans la même logique.
Oui, absolument. Que LFI
et le parti à l'Est n'était pas LFI, mais LFI,
il est plutôt vers le Proche-Orient et dans certains mouvements du Proche-Orient. Donc il y a un certain nombre de ruptures entre.
Et loin quand même.
Jean-Marc, là,
c'est pas moi qui dis ça.
Tu t'approches sur une peau de banane. Je le dis avec amitié.
Je maintiens, ils ont pris des positions qui sont des positions qui ont été condamnées par un certain nombre de gens. D'ailleurs, c'est tout ce que l'on m'en dit. C'est un parti qui est qualifié par certains d'antisémites sur des bases qui sont liées à des phénomènes de politique étrangère. Et donc, effectivement, on a dit la même chose sur le Rassemblement National. Donc, il y a une espèce de bloc qui, vis-à-vis de Guy Mollet, est un bloc qui est considéré par certains comme n'étant pas assimilable à un parti de gouvernement. Pour des raisons qui sont des raisons de lien avec la politique internationale. La deuxième chose que je voudrais mettre en avant, c'est que par rapport à la 4e République, il y a un président de la République qui est là, qui n'existait pas, il y a des institutions, la 5e République, il y a la possibilité, il y a l'obligation d'avoir le budget en 70 jours.
Absolument.
Et je suis pas d'accord avec le fait que le Parlement ne servait à rien, le Parlement n'était pas une chambre d'enregistrement, le Parlement sous la 5e République, il y a eu des motions de censure qui ont été votées en 1962, il y a eu
une fois en 62.
Après, c'est
un pétard mouillé.
Après, il y a eu quand même l'opposition du RPR qui a mené la vie dure à Raymond Barre et qui a obtenu un certain nombre de choses, et il y a eu les frondeurs. Et je pense que des enjeux, et c'est pour ça que Mélenchon est intervenu de façon aussi brutale, radicale et rapide hier soir, c'est parce que effectivement, les gens qui sont élus, et Xavier l'a dit, ils sont élus, ils ont un mandat et tout ça, mais enfin, il y a eu les frondeurs, c'est-à-dire un certain nombre de gens qui avaient été élus sur un programme et qui ont voté contre ce programme. Je rappelle qu'au moment où François Hollande a été élu, il avait dans son programme l'approbation du traité européen de l'ITSCG, et un certain nombre de gens qui ont été élus sur la base du Parti Socialiste qu'il avait choisi ont voté contre ce traité. Donc il y a toujours des gens qui sont disposés à trahir. Et à partir de ce moment-là, le véritable enjeu, c'est qui, jusqu'où et comment des gens vont être disposés à trahir dans la prochaine Assemblée. Et donc, je pense qu'effectivement, ce que je peux appeler, ce qu'à un moment donné certains appelaient des partis ayant des considérations liées à la diplomatie, pour être que ces gens-là n'ont pas vocation à rejoindre une majorité gouvernementale. En revanche, je pense que l'autre bloc va essayer de se constituer en un bloc de gouvernement.
D'accord.
Et la dernière élément que je mettrai en avant, c'est considérer que jusqu'à présent, le Parlement n'avait aucun pouvoir. Je maintiens, c'est contraire à ce qui s'est passé, y compris à l'époque où Michel Rocard était obligé de gouverner avec le 49-3, il a été obligé de faire des concessions.
Parce qu'il avait une majorité relative.
On referme l'aspect purement politique. On a 2 minutes 50, je pense que c'est suffisant pour faire le bilan des réactions de marché. Au petit matin, on commençait à regarder les futurs sur la Bourse de Paris, on commençait à essayer d'imaginer s'il pouvait y avoir des mouvements sur le taux souverain à 10 ans de la France, et qu'allait faire l'euro face au dollar, j'ai envie de dire, trois fois RS, Xavier Darmon.
Déjà la fièvre qui était montée sur les marchés au moment de la dissolution.
C'est était... au moment de la dissolution uniquement hein, qu'il y a
oui,
eu
mais elle, elle était quand même assez modérée, cette fièvre.
La première semaine, ça a été un peu chaud.
Ça a été un peu chaud, bon. Mais bon, voilà.
Les et... spreads, et on a perdu 200 milliards en une semaine sur le CAC.
Je pense que là, on est en voie de enfin, on continue le processus lent de normalisation de l'état des marchés financiers dans cette période. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a quand même pas un peu de tension et un peu d'attention, on va dire, des marchés financiers à ce qui se passe, parce que il y a beaucoup de choses en jeu en fait. Il y a quand même la façon dont la France va être gouvernée. Il y a beaucoup d'incertitudes sur sa politique budgétaire dans les trimestres qui viennent et l'année prochaine en particulier. Il y a beaucoup d'incertitudes sur la relation de la France à l'Europe. On peut imaginer qu'il ne va pas se passer grand-chose, mais on peut aussi construire des scénarios dans lesquels il se passe des choses. En 2024, en 2025 et puis au-delà aussi, parce que en fait, encore une fois, l'histoire est loin de s'arrêter aujourd'hui. Je pense même que d'une certaine façon, encore une fois, la crise politique, elle s'ouvre.
Oui, je pense qu'elle s'ouvre aussi. Qu'on est vraiment qu'au début.
Et là, même si on est dans une accalmie et qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été cristallisées et révélées et clarifiées, comme dirait Emmanuel Macron, malgré tout, on reste dans une situation qui est très peu claire. Hein, donc,
oui, oui.
Voilà, donc je pense que tout le monde va être très attentif à ça. Là, il y a plutôt un soulagement. Et puis, il y a peut-être un autre soulagement aussi, qui est qu'au moment de la dissolution, on avait le sentiment qu'on entrait dans une zone vraiment inconnue et à la limite des institutions. On voit quand même, malgré tout, que le processus électoral se déroule, qu'il n'y a pas d'émeute, qu'il n'y a pas de violence extrême, qu'il y a un jeu politique qui se met en place, il est nouveau, personne ne sait très bien le lire, mais malgré tout, il se met en place. Il n'y a pas de contestation des élections. Enfin, je veux dire, si vous comparez la France aux États-Unis, on a une démocratie qui est robuste, parce que le président élu ou non élu, ou le chef de parti qui vient d'essuyer un échec, ne dénonce pas l'élection comme étant truquée.
Non, mais absolument.
Et appelant. Voilà. Donc, vous voyez, on est. Enfin, bon, tout ça sont des éléments qui sont plutôt rassurants. Après. Voilà, les démocraties vont pas toujours dans la direction qu'on imagine.
On marque une pause, Frédéric. Vous aurez la parole dans un instant, et notamment, à mon avis, le moment plus clé, ce sera l'automne avec le budget. Quand on regarde le taux à 10 ans, on est à 3,20. On est à 65 points de base avec l'Allemagne. La bourse de Paris est ouverte. On baisse, mais c'est modéré. 1 euro, voire 1,08 $. Ah, à propos de notre débat d'ouverture, Laurent me dit, chez Félix Potin, on y revient.
C'était ça.
Voilà. Chez Félix Potin, on revient dans un instant, à tout de suite.
Voilà.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux.
Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 euro par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, auteur de Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob, Frédéric Farah, économiste enseignant à l'Université Paris, un Panthéon-Sorbonne qui a publié No Frexit, ce que les jeunes pensent de l'Europe chez Fayard. Xavier Tabou, directeur principal de l'OFCE. Il y a une auditrice qui trouve que, Isabelle, elle trouve que c'est pas bien de rire des malheurs de la France avec des histoires de chocolatine. Bon, je suis désolé.
Mais on riait pas.
Mais non, mais. Ouais. Alors sinon, Marie-Claude Roy considère qu'elle m'a envoyé. C'est de la propagande de dire chocolatine, il faut dire pas au chocolat.
Ah oui.
Bon allez, hop, on revient à nos moutons.
C'est un sujet important, mais éternel et épuisable.
Voilà. Les marchés RAS, on disait.
RAS. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose de quoi s'inquiéter.
Non, mais réaction ce matin, j'ai croisé des journalistes de BFM TV. Est-ce que la bourse va s'écrouler ?
Pense qu'après, les marchés financiers peuvent remplir leur fonction de juge de paix par moment. C'est ce qu'ils ont fait dans la construction européenne récemment. On l'a vu en Italie quand, évidemment, en 2011, M. Berlusconi n'avait pas trop envie de suivre la lettre de M. Trichet. C'était un peu agité. Il est parti. On a mis M. Mario Monti à la place en tant que tel. Sinon, quel que soit, peu importe où on regarde sur l'échiquier politique, personne n'a envie de remettre les règles européennes en cause, personne ne veut remettre en cause le cadre européen. Donc, si quelqu'un avait dit oui, on arrive, on chamboule tout, etc., je peux croire que ça peut créer un effet d'inquiétude.
Du côté RN, il y avait quand même l'idée qu'on tord le bras sur la TVA, qu'on sort à moitié du marché européen de l'électricité.
Je pense que s'ils étaient arrivés. au pouvoir. Je pense que, alors, si on continue les références légères pour qu'on soit critiqué, ça aurait été caramel, bonbon et chocolat. Merci, mais pas pour moi. Tu peux bien les offrir à une autre. Hein. Ça, c'est parole de Alain Delon et Dalida. Donc, si on devait faire cette référence, donc je ne crois pas un seul instant à tout ça. Et puis, si le RN était arrivé au pouvoir, il avait fait un audit en expliquant que les finances sont dans un tel état que tout leur programme, il faudra le remettre à demain. Donc, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'alarmant. Mais où je suis tout à fait d'accord avec Xavier Timbaud, c'est le fait que nous sommes au début de la crise politique. Je pense que et qu'on n'a pas encore vu tout le reste, mais c'est quand même rassurant de voir quand même que la démocratie française se porte quand même plutôt bien.
On est d'accord. Jean-Marc, le moment clé, peut-être le budget, le moment où vraiment on donnera la substance à la direction que nous décidons de prendre par rapport à nos finances publiques.
Oui, je crois que c'est l'événement majeur qui nous attend maintenant sur le plan économique, sachant que quand on regarde dans les périodes précédentes, ou encore ce qui se passe à l'heure actuelle, quand il y a une vraie défiance à l'égard de décisions économiques, c'est plutôt le taux de change qui est touché. Listos a été obligé de démissionner parce que la Banque d'Angleterre a signalé que pour maintenir le taux de change de la livre, pour essayer de sauver le taux de change de la livre, elle allait devoir monter considérablement ses taux d'intérêt. Et vous regardez ce qui s'est passé récemment au Brésil. Au Brésil, le président Lula a annoncé que finalement toutes ces règles d'équilibre budgétaire, toute cette volonté de limiter l'augmentation des dépenses allait à l'encontre de sa stratégie. Et la conséquence, c'est que dans les 48 heures qui ont suivi, le real brésilien est passé de 1 dollar égale 5 real à 1 dollar égale 5,6 et ça continue.
J'ai vu.
Et donc, effectivement, nous, on est protégés par l'euro. Et la deuxième chose, c'est que si vous regardez par rapport à 1981, le programme est un programme qui est notamment donc du nouveau Front Populaire, est un programme qui a été un peu bricolé à partir du programme de Mélenchon de 2022, notamment le blocage des prix qui était à l'époque une réponse à l'inflation alors que l'inflation a disparu. Mais la grande différence par rapport à 80, c'est qu'il n'y avait pas de programme de nationalisation. Il y avait, en 1980, un très large programme de nationalisation qui avait été vécu comme étant effectivement une rupture par rapport aux règles de l'économie traditionnelle. Là, il n'y a aucun programme qui portait ça. Donc, effectivement, le fait que le taux de change soit préservé par l'euro et le fait que malgré les envolées lyriques et les programmes économiques un peu délirants, il n'y avait pas cette rupture. Enfin, je rappelle quand même que le congrès du Parti Socialiste de 1981, l'enjeu, c'était de savoir si on romprait avec le capitalisme dans les 6 mois qui viennent ou dans l'année qui suit. Et ça s'est terminé par la rigueur.
Oui, des 3 dévaluations et la rigueur.
Et la rigueur.
Il y avait un projet de nationalisation, mais qui avait été écarté, c'était du côté RN.
Oui, oui, ils voulaient renationaliser.
Oui, mais le problème, c'est que ça coûtait au bas mot 45 milliards d'euros.
Alors, la rigueur, mais quand même, là, le bilan qu'on fait de la période de 81 n'est pas un bilan simplement de l'austérité budgétaire. Non. Il y a quand même un certain nombre d'avancées sociales qui ont été réalisées à ce moment-là, il ne faut pas les oublier.
Bien sûr.
Et le compromis, il est parfois fait avec la réalité, mais on ne peut pas dire qu'il y ait là un renoncement complet. Quoi.
Non, il n'y avait pas un renoncement complet, et puis d'autre part, effectivement, il y a des avancées en 81, et...
On va revenir à aujourd'hui, hein, quand même.
Oui, bien sûr, non, mais je tiens à le dire, et aujourd'hui, pourquoi on fait ce parallèle avec 81? Parce que, pour certains, la seule idée qu'il puisse y avoir une inspiration proche de ça, proche d'une référence keynésienne, c'était ligne rouge, ah, quelle horreur, etc., comme s'il ne pouvait y avoir qu'une seule politique économique possible. Et je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que depuis 83, et puis on ajoute ensuite notre adhésion à Maastricht et autres, la politique économique, c'est 50 nuances de la même chose. Hein. Je veux dire, et donc la seule idée qu'il puisse y avoir une rupture un peu plus significative et qui reste vraiment très relative, tout le monde commence à s'agiter en disant « Ouyaïaï, le nouveau Front Populaire nous propose une rupture, on a l'impression, je sais pas, c'est la révolution d'octobre ». Donc non, je pense que ce qui est plutôt inquiétant, c'est de laisser entendre à une population qu'il ne peut y avoir en économie qu'à peu près une seule orientation possible, sinon les marchés vont taper sur les doigts, sinon l'Europe va se fâcher, et ainsi de suite. C'est quand même assez inquiétant en démocratie de se dire qu'il n'y a qu'une orientation politique de politique économique majeure, pour le reste, c'est de la fantaisie, c'est des lubies, où ça n'a pas de sens.
Non, mais il n'y a pas qu'une seule politique économique, mais il y a quand même des erreurs économiques. Préparer une relance, annoncer qu'on va faire une politique de la demande dans un pays qui a un déficit extérieur de l'ampleur de celui que nous connaissons, c'est une erreur économique. C'est une grave erreur économique. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais dans plusieurs possibilités, il y a aussi des conneries. Donc, on peut effectivement avoir une autre politique économique, mais non pas une connerie.
Oui, parce que les enquêtes d'opinion mettent en avant le pouvoir d'achat. Alors le pouvoir d'achat, c'est de la politique de la main. Mais justement, tiens, on va en parler. Du coup, il y a un auditeur qui se demande maintenant, il s'appelle Steph, pourquoi on dit casino ? Pourquoi casino s'appelle casino ?
Ah ben je peux vous dire pourquoi.
Casino ?
Parce que le casino a été fondé à Saint-Étienne par Monsieur Guichard, oui, qui a racheté l'ancien casino au sens des locaux du casino. Il y avait un casino qui avait été autorisé à Saint-Étienne. Bon. Parce que à Saint-Étienne, on produit notamment de l'eau minérale. Et donc, et le casino a fermé, il a racheté les locaux et il a gardé...
On va pas faire toutes les enseignes.
L'entrée qui, où il y avait marqué casino.
Donc justement, on se demande s'il y a du grain à moudre pour une sorte de programme qui permettrait de réunir tout ce petit monde pour former une majorité peut-être absolue, ou en tout cas proche de la majorité absolue. Alors là, le sortant a déjà lâché l'assurance chômage, c'est très clair. Il y a eu ce rapport opportun du Sénat disant que, oui, baisser la TVA à 5,5% sur l'électricité, hein, pas sur les carburants. C'était une baisse de 40% des factures. Donc là, on sent qu'il y a, il y a justement un peu de grain à moudre, et en face, on est attaché à l'idée qu'il faut remettre l'ISF et surtout abroger la réforme des retraites. Bon, alors, qu'est-ce que vous imaginez ? Ça vous inspire quoi, messieurs ? Quand on voit que là, ça va être maintenant ça va être du troc, hein ? Alors, je sais pas s'ils ont peut-être encore une petite carotte du côté ensemble en disant tiens, ben, je vais vous donner un peu de prime d'activité, comme il faut du pouvoir d'achat. Mais vous allez m'oublier l'histoire du SMIC. Et puis, mais là, le coup de la réforme des retraites, ça a l'air vraiment d'être le casus belli. Ça vous inspire quoi ? Parce que c'est ça, ça va être ça, hein, ce qui va se passer là dans les semaines qui viennent. Ça va être de la petite cuisine avec chacun sa recette.
Bon, alors moi, je qualifierais pas ça pour commencer de la petite cuisine.
Ou de la grande cuisine.
Je pense qu'il faut aussi un peu respecter la démocratie.
Non, mais donc, bien sûr. Mais
voilà, il va y avoir des compromis qui vont être faits. On peut dire que ces compromis sont de la cuisine ou de la petite cuisine. Je pense qu'il faut être un peu plus respectueux que ça.
D'accord.
De ce qui va être fait. Alors après,
en tout
dans
cas,
les mesures,
c'est à peu près ça les éléments mais, du bon, les éléments de la discussion. Okay. Hein. Mais le dans les mesures écho, que c'est là-dessus, hein.
Dans les mesures que vous énoncez, oui, il y a les briques qui peuvent servir à construire un compromis, mais on est loin du grand soir. Enfin,
ouais.
Abroger la réforme des retraites pour remplacer une mesure d'âge par une mesure de cotisation, par exemple, me paraîtrait pas quelque chose de proprement scandaleux. C'est une option qui est possible.
Ça n'a pas été évoqué comme ça. Hein.
Mais non, oui, ça n'a pas été évoqué
là,
comme ça, Nicolas.
Mais, j'entends bien
mais,
ce que vous dites.
Je veux dire, abroger la réforme des retraites, ça veut dire ben, qu'est-ce qu'on fait sur la retraite ? Est-ce qu'on fait rien ? Est-ce qu'on fait la retraite à 60 ans pour tout le monde ? Peu probable, Nicolas.
Oui.
Peu probable. Est-ce qu'on a une option budgétaire possible sur la retraite, c'est-à-dire des économies budgétaires possibles sur la retraite autrement que par une mesure d'âge de départ ? Sans doute, oui. Oui, il y a des choses à faire.
À ce moment-là, on remet 62, mais on joue sur les années de sur les annuités.
Par exemple.
Ah oui, mais voilà.
Mais par exemple, mais c'est, je veux dire, ça va être ça là.
Ça va être des détails techniques.
Oui, mais c'est important, essentiel. Ces détails techniques, parce qu'ils sont dans la vie des gens, ces détails techniques.
Et donc,
s'il y a de la prime d'activité, c'est un détail technique, mais les 100 euros qu'on pourrait mettre en plus, c'est bien, ça va dans une poche.
Bien sûr.
Mais bien sûr, Nicolas.
La réforme de l'assurance chômage, c'est peut-être hyper complexe, à part que ça a changé la vie de pas mal d'assurés.
Je pourrais vous en citer plein d'autres comme ça. Après, il y a quand même un volet qui est le volet fiscal. Emmanuel Macron a traumatisé une partie de la population en supprimant l'ISF, en supprimant la taxe d'habitation. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur le plan fiscal aujourd'hui en France ? Sans doute. Est-ce que ça veut dire que c'est une politique de la demande ?
Je pense qu'il se passera des trucs.
Est-ce que ça veut dire que c'est une politique de la demande ? Pas nécessairement, parce que oui, la contrainte budgétaire elle va être assez forte. Et probablement, la situation, enfin, pas probablement, mais la situation conjoncturelle, le diagnostic qu'on peut avoir, est que d'abord, c'est pas le problème, et ensuite, on n'en a pas vraiment la possibilité. Donc, bon, voilà, je veux dire, là, il y aura un compromis qui va être fait. J'imagine un gouvernement qui va devoir pondérer entre tout un tas de contraintes dans tous les sens. J'imagine mal qu'on fasse une politique de la demande dans ces circonstances. Vraiment, j'imagine difficilement ça. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de réforme fiscale ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de réforme de la retraite ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas des mesures de pouvoir d'achat assez significatives ? Bah, sans doute pas, parce que dans ces contraintes-là, oui, c'est possible de faire ces choses-là. Alors, je veux dire, faire une réforme des retraites, penser que celle d'Emmanuel Macron, qui a quand même mis tous les syndicats contre lui, est la seule possible, bah non, ça, c'est pas possible de le dire.
Je sais pas qu'au moment de la réforme des retraites, certains avaient considéré qu'il valait mieux utiliser le paramètre des annuités plus que le paramètre de la borne d'âge.
Et probablement, on peut trouver avec les syndicats un compromis là-dessus. C'est peut-être comme ça qu'il faut faire de la politique.
Ça m'intéresse dire, d'avoir tout
ben, si, si on doit faire une critique aux 7 ans qui viennent de s'écouler, c'est que quand le pouvoir est dans peu de mains et que ses mains sont peu éclairées, on arrive à des choses qui sont difficilement acceptables par la population.
Oui, il est certain que ce n'est pas le dialogue social qui a dominé la coécriture du droit français.
Et la crise politique dans laquelle on se trouve, elle ne vient pas du ciel. Hein, c'est pas quelque chose qui nous vient de l'extérieur.
Non, mais je pense que c'est bien de rentrer, c'est quelque chose
qu'on a soigneusement construit nous-mêmes.
Je retire le mot petite cuisine, mais c'est bien de rentrer dans les éléments concrets qui pourraient nous donner la nouvelle photographie de l'offre politique politico-sociale économique à venir.
Je pense qu'une autre méthode. Ouais, c'est-à-dire une autre méthode, c'est-à-dire qu'effectivement, qui replace les syndicats, le dialogue social, les partenaires sociaux, etc. Il faut cesser ce mouvement d'étatisation de l'assurance chômage, cette façon que tout est repris par le haut. Il faut redonner de la place au dialogue social et ce que le macronisme et Monsieur Macron ne supportaient pas puisque c'était toujours la verticalité en permanence. Un. Deux, regarder où sont les leviers où l'on peut agir. Bon. Quand on observe ce qui reste à disposition en termes d'outils de politique économique, le budget est contraint, dans son sous-ensemble la fiscalité, c'est donc la fiscalité sur laquelle il va falloir réfléchir, soit pour faire effectivement, je ne dis pas un grand soir fiscal, mais en tout cas revoir l'impôt et la progressivité de l'impôt, réfléchir sur peut-être une autre base d'ISF que celle du passé, ça peut être une question, voir si on peut jouer oui ou non sur la TVA, ce qui est possible d'espérer de ce côté. En termes de pouvoir d'achat, voir ce qu'on peut faire aussi par rapport à la fonction publique qui avait vu aussi sa situation se dégrader. C'est évident qu'on ne peut pas faire une politique que de demande et séparer l'offre de la demande n'a pas beaucoup de sens parce qu'effectivement on est face à des problèmes d'une base industrielle à reconstruire, on est face à un problème de productivité qui commence à devenir de plus en plus problématique. Donc agir sur la fiscalité, oui, réfléchir sur la TVA, oui, repenser à une méthode en tant que telle, oui, revoir sur la question des retraites, c'est évident qu'il y a des leviers pour faire autre chose qu'une réforme pareille. Ça, c'est hyper important. Et je trouve qu'il faut trouver cet équilibre, à la fois où il y a une vraie problématique de pouvoir d'achat, mais en même temps, il s'agit pas non plus de dire qu'on rase gratis, il s'agit pas de dire non plus qu'il faille faire en sorte que les entreprises étouffent sous les charges, mais faire en sorte que il y a quand même la population réclame de meilleurs services publics, la population réclame une question de pouvoir d'achat, et on ne peut pas ignorer cette chose-là. Je pense qu'il y a beaucoup de place pour qu'on puisse discuter de tout ça entre les partis, avec une autre méthode que celle de M. Macron, qui était absolument insupportable. Et M. Faure a dit quelque chose d'hier,
Olivier Faure,
de très juste, qui était de dire, c'est la fin du temps du mépris. Enfin, oui, j'aimerais bien que ce temps du mépris cesse, parce qu'effectivement, ce gouvernement a gouverné comme ça pendant 7 ans. Donc, si ça peut être autre chose en termes de méthode, avec une fiscalité différentes. D'accord. L'autre, ça peut être bien.
Quand vous entendez cette photographie d'une France d'après, Jean-Marc Daniel, ça, parce que je pense qu'il y a plein d'éléments dans ce qui ont été dit par Frédéric et par Xavier qui sont des choses très réelles, très concrètes et qui vont se poser dans ces termes-là.
Hein. Oui, je ne suis pas aussi convaincu que ça. Je pense d'abord qu'effectivement, l'économie a joué un rôle, mais pas exclusivement, quand même, dans cette élection.
Ah non, je ne pense pas qu'on a...
C'est important de le rappeler.
Que l'économie n'a pas été forcément...
Ah oui, non, l'économie n'a pas fait voter.
Les gens ont voté pour d'autres considérations. Et je pense en plus que les programmes économiques étaient bricolés. Hein. Encore une fois, il n'y avait pas de programme économique des sortants.
Non. C'est ce que j'ai dit à Gabriel Attal sur BFM.
Il n'y avait pas de programme économique.
Je lui dis, il est tellement clair qu'il est transparent, votre programme.
Le nouveau Front Populaire avait adapté le seul programme économique qu'il avait à disposition, c'est-à-dire celui de LFI, construit autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2022, donc il était totalement obsolète lui aussi. Et puis, et quant au Rassemblement National, il se défaisait de jour en jour. Chaque jour qui passait, ils abandonnaient une mesure, ils en inventaient une. Bon.
Heureusement, ça n'a duré que 20 jours.
Oui, heureusement que ça n'a duré que 20 jours, oui. Et ce que j'ai trouvé aussi frustrant, c'est que le monde des économistes a encore pris position.
On va en parler juste après.
Il y a quand même deux sujets sur lesquels je pense qu'il va falloir réfléchir, notamment en termes de fiscalité. On parlait de Christian Gaulier, vous parliez de Christian Gaulier. Il y a quand même tous ces enjeux écologiques qui ont totalement disparu. C'est-à-dire que le grand absent de la... C'est non seulement les écologistes, mais c'est l'écologie en tant que telle.
Il y avait beaucoup d'absents, hein.
Le logement était absent,
la productivité était absente.
Mais la productivité, c'est quelque chose... ça ne dépend pas immédiatement de l'action du gouvernement.
On est d'accord.
En revanche, faire une taxe carbone, avoir une fiscalité qui soit orientée vers les enjeux écologiques, vous vouliez qu'on parle des 20 ans du principe de précaution, ça c'est des choses choses qui sont des choses qui n'étaient pas là et qui auraient dû être au centre du débat. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, je pense que on le voit bien dans l'histoire du Rassemblement National qui voulait renationaliser les autoroutes et tout ça. Non seulement le discours s'est tourné sur le pouvoir d'achat, mais en plus avec l'idée qu'il fallait donner du pouvoir d'achat sur un des secteurs qui est un des secteurs les plus problématiques, pour revenir sur mon premier point, qui sont les carburants. Or, quand vous regardez le vote, il y a quand même une sorte de jacquerie, entre guillemets, c'est-à-dire le monde rural et l'endroit où le Rassemblement National a fait ses meilleurs scores maintenant, c'est tout le monde rural et le monde des villes moyennes, et sur un discours qui est un discours, effectivement, l'essence coûte trop cher, il y a une politique anti-automobile, on en veut à l'automobile, et donc je crois on ne peut pas ignorer la volonté de la population, mais on ne peut pas ignorer qu'effectivement il y a des éléments qui font qu'il y a une sorte de nécessité qui va être en...
J'entends très bien ce que vous me dites.
Qui va être en opposition avec la volonté immédiate de la population.
Je doute qu'il y ait des éléments fiscaux, écologiques, enfin peut-être, je ne sais pas.
Vous aviez de réagir à ça.
Oui, c'est intéressant d'imaginer ce qu'on va construire et proposer aux gens en termes d'offres économiques,
bien sûr,
dans une sorte de ce que j'appellerais un programme commun, si on peut l'appeler comme ça.
Oui, je veux réagir à ça parce que je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment commenté, mais je pense que un des échecs du gouvernement, et qui a permis au Rassemblement National de prospérer, c'est l'affaire du leasing social sur les voitures électriques. La mesure phare du RN, c'était de baisser la fiscalité sur les carburants, la TVA sur les carburants. Ça représente un coût qui est estimé autour de 15 milliards d'euros par an.
Voilà, oui.
15 milliards d'euros par an, si on avait subventionné à hauteur de 10 000 euros, ce qui est à peu près ce qu'il y avait dans le leasing social.
13 000 la part de l'État. Donc,
disons 10 000 ou 15 000, allez, si vous voulez. 15 000 pour simplifier. La mesure du RN aurait permis de faire du leasing social de 1 million de véhicules électriques par an. Or, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? En fait, le gouvernement, il a mis en place cette mesure, probablement excessivement généreuse, pas très bien ciblée, et a décidé de l'arrêter au bout d'un mois.
Même pas. Toujours parce que l'offre était déjà complètement sursouscrite.
Parce que ça allait coûter trop cher.
Ben oui. On s'est arrêté à 50 000.
Mais vous voyez, le problème, c'est que c'était la réponse à cette préoccupation de la France rurale et de la France des villes moyennes. C'était la réponse. De leur dire, plutôt que de baisser la TVA, qui va vous apporter du pouvoir d'achat, mais qui est quand même une mesure extrêmement coûteuse, à contresens de l'histoire, qui va donner de l'argent aussi à des gens qui ont des grosses voitures, qui consomment beaucoup, donc qui n'est pas du tout ciblé, impossible de la cibler. Plutôt que de faire ça...
Surtout qu'on ne fait pas machine arrière quand on est.
Plutôt que de faire ça, faisons 1 million de véhicules électriques par an. Mais vous imaginez, ouais. 1 million de véhicules électriques par an, la puissance de transformation que vous avez en 10 ans, vous équipez le premier tiers de la distribution des revenus de véhicules électriques. Et donc, vous avez répondu à cette question par quelque chose qui est relativement simple, relativement concret et qui permet d'évacuer cette question. Et ça, je le mets comme étant un échec du gouvernement qui a proposé un dispositif, qui n'a pas su l'assumer, et qui donc l'a décrédibilisé et a permis au Rassemblement National de prospérer avec une mesure qui est une mesure imbécile. Disons-le très simplement.
La TVA 5,5. Bah, j'ai débattu avec Jordan Bardella là-dessus en lui disant vous êtes le seul truc sur lequel vous n'avez pas de certitude, c'est le fait que vous aurez une parfaite répercussion sur les prix en baissant la TVA.
Bon. Non, il y avait une obsession sur l'automobile. Oui, encore une fois, la nationalisation des autoroutes, l'objectif c'était de faire en sorte qu'on baisse les péages en fait.
Oui,
d'orientation du Rassemblement National vers l'automobiliste, vers une catégorie de la population. Et il fallait répondre à ça et on n'a pas répondu à ça.
On ne va pas débattre pendant des heures sur le RN, ils ont 143 députés.
Oui, absolument.
Non, mais quand même important parce que on doit absolument tirer la leçon de ce qui s'est passé.
D'accord.
Ne pas la tirer, ne pas la comprendre, on est condamné à répéter cette histoire.
Christian,
et à augmenter ses fractures.
Christian Gaulier écrit dans Les Échos aujourd'hui, alors il revient sur la bataille qui a déchiré un peu les économistes pendant cette campagne. Il écrit des choses qui, pour lui, sont des choses absolument indiscutables. Indiscutable. Et pourtant, elles ont bien effectivement fracturé les économistes. Il met en taxant plus les revenus du travail, on réduit l'incitation au travail. En taxant plus le capital, on réduit l'incitation à épargner et à investir. Quand on taxe les fenêtres, on mure les fenêtres, écrit-il. Faut-il moins de travail, moins de capital et moins d'investissement au nom de l'aversion aux inégalités ? Peut-on redistribuer plus en produisant moins ? La redistribution de richesses, quoi qu'il en coûte, est-elle la voie à suivre ? Est-ce que c'est discutable?
Non, je suis tout à fait d'accord avec Christian Bollier. Moi, ce qui m'a frappé, c'est d'abord le fait qu'un certain nombre d'économistes ont pris position, mais sur des bases qui étaient des bases idéologiques. Et d'ailleurs, je rappelle quand même régulièrement qu'au moment de l'élection de François Hollande, en 2012, il y avait des économistes qui avaient conclu un appel à voter pour lui en disant qu'il symbolisait l'audace et la compétence. Donc, il y avait un côté, je ne veux pas dire critiquer François Hollande, mais enfin, c'était quand même un peu ridicule comme caractérisation de la personnalité et de l'action d'un homme politique.
Certains sont repentis aujourd'hui.
Oui, moment, ça franchit l'idéologie.
Oui. Mais sur le plan, je veux dire, sur le plan des réactions, au moment, Thomas Piketty est intervenu pour expliquer qu'effectivement, le soutien au nouveau Front Populaire était moins un soutien à un programme dont on pouvait considérer qu'effectivement, il n'était pas véritablement très sérieux. Mais c'était une idée, à une tendance, et sa tendance et cette idée qui était derrière ce programme, c'était de réduire les inégalités. Et il disait, c'est pour ça que j'appelle à voter pour le nouveau Front Populaire. Donc je suis d'accord avec Christian Gaulier, tout un tas de mesures qui sont annoncées sont absurdes, et des économistes devraient expliquer pourquoi, par rapport à cette absurdité, ils soutiennent quand même ce genre de programme. Ce qui me paraît le plus désolant, c'est que le cercle de la raison, comme disait Alain Mec, n'a rien produit de véritable... C'est ce que disait Paul Krugman, quand il commentait les programmes des élections, non pas celle-ci, mais la précédente, il disait, le problème, c'est que ça fait 20 ans que les macroéconomistes ne proposent rien. Ça fait 20 ans que les économistes se contentent de répéter de façon incantatoire innovation, productivité et formation. Il y a un moment où il faut sortir simplement de l'incantation sur deux ou trois mots pour produire quelque chose de concret. C'est l'autre jour, je disais ça sur votre plateau en présence d'Emmanuel Combes, je disais, c'est du blabla. Je maintiens que pour beaucoup de gens, ces mots sont devenus du blabla.
Ah, mais pour beaucoup de gens, d'accord.
Il faut maintenant que les économistes sortent quelque chose autre que ça va être l'innovation, la formation et la productivité.
Que des choses soient difficiles à faire admettre.
Non, mais c'est même pas à faire admettre. C'est qu'est-ce que vous mettez derrière? Il y a beaucoup d'économistes qui ne mettent plus rien derrière.
Mais là, en l'occurrence, Xavier Tabot, ce que dit Christian Gaulier, considérant que c'est pas normal qu'on se déchire entre économistes sur ces choses-là.
Moi, je suis pas d'accord avec Christian Gaulier parce que je trouve que là, il a un point de vue qui est un petit peu simpliste.
Dommage, il n'est pas là pour répondre.
Non, mais il n'est pas là pour répondre.
Désolé, mais je compte bien l'inviter parce qu'il sera.
Je veux dire, dire que taxer a des effets négatifs, on est d'accord.
Bon.
Effectivement, c'est des incitatifs, ça fait moins de capital ou d'épargne quand on taxe le capital. Quand on taxe le patrimoine, c'est pas tout à fait pareil que de taxer le capital productif, ça a d'autres effets.
Il évoque pas le patrimoine, là.
Non, mais c'est intéressant d'ailleurs de faire la différence entre capital et patrimoine, parce que c'est une confusion qui profite évidemment aux détenteurs de patrimoine. Ok. Mais ensuite, quand on taxe les revenus du travail, on désincite au travail, etc. Mais on voit bien quand même qu'on a des choix difficiles à faire. Si vous voulez subventionner à hauteur de 15 000 euros le leasing social pour pouvoir répondre à cette question essentielle d'angoisse existentielle et civilisationnelle des gens qui vivent et qui dépendent de la voiture et qui ne savent pas comment ils vont faire dans ce monde qu'on leur présente en les culpabilisant d'utiliser des voitures, ça coûte 15 milliards par an d'euros. Comment on fait les 15 milliards d'euros? Où est-ce qu'on les trouve? On les économise sur l'éducation? Sans doute pas. Donc à un moment, il y a des choix à faire. On sait que la taxation, ça a des effets négatifs. Mais on imagine, et c'est d'ailleurs écrit dans la Constitution, articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme, que oui, on peut prélever l'impôt quand il s'agit de faire le bien public. Et oui, pour avoir une armée défendre,
déjà, j'ai envie de vous dire.
Il faut lever l'impôt. Et
on
oui,
le prélève
pour éduquer.
Pas mal, l'impôt, déjà.
Mais non, mais on le prélève pas mal. Donc on peut. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Mais voilà. Mais Christian Gaulier, il nous dit attention, quand on prélève l'impôt, c'est négatif. Mais Christian, on le sait que c'est négatif. On le sait. Le problème, c'est que on imagine qu'on aura un usage plus positif des recettes de l'impôt. Ne l'oublions pas. Voilà. Cet usage, il va répondre à des questions politiques, à des questions de justice, à des questions d'équilibre, à des questions de cohésion sociale, qui sont des questions essentielles. Je dis pas que tout impôt est bon. Je dis pas qu'il faut augmenter à l'infini les impôts. Bien évidemment, non. Je dis pas d'ailleurs que la façon dont on utilise les impôts aujourd'hui est positive et qu'il y aurait pas une première phase de politique à faire qui serait de faire en sorte qu'effectivement cet argent des impôts soit utilisé de la façon la plus positive possible.
Et je vous dis pas
que 40 milliards d'euros qui sont mis dans la politique du logement, ils sont efficaces et pertinents. Évidemment qu'on peut...
Très bon exemple.
Mais ça marche, ça fonctionne. Et c'est ça qu'il faut faire. La politique. Évidemment, c'est pas dire innovation, formation, productivité. Parce que ça, effectivement.
Frédéric,
c'est
un mot là-dessus. Hein,
c'est incantatoire. On fait de l'incantation, on ne fait pas des compositions.
On a une minute 20 pour terminer, Frédéric.
Bah,
là-dessus. Et le principe de précaution, je le garde pour
pourquoi je. Enfin, je ne partage pas, même si j'entends tout à fait le propos qui est dit. Parce qu'en fait, c'est là aussi créer une opposition artificielle, l'économique face au social. Si on fait du social, ça se fait contre l'économique. Il faut l'économique puis le social. Bon, je trouve que c'est un peu dépassé comme façon de penser les choses. Les deux peuvent s'articuler, ça peut se prouver historiquement. Et deuxièmement, effectivement, au contraire, c'est bien qu'entre les économistes, alors qu'on n'a rien produit effectivement depuis tant d'années, qu'il y a un vrai débat. Et la question, on peut jamais échapper complètement à l'idéologie.
Oui, mais là, on a l'impression qu'il n'y a pas de social du tout dans le système économique français, ce qui est quand même pas la réalité.
Non. Mais il y a cette idée que si on veut faire du social, il faut avant de l'économique. Et si l'économique n'est pas là, on peut pas faire du social. On crée de fausses oppositions. Et au contraire, aujourd'hui, effectivement, plus que jamais, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire dans un environnement où il y a aujourd'hui ces contraintes écologiques auxquelles on ne pensait pas, même dans les vieux modèles du passé, et de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans un monde qui vieillit, dans un monde qui fait face à ça. Au contraire, il faut garder la discussion ouverte, et l'idéologie, on n'y échappe jamais complètement, même notre collègue.
Mais on en revient aussi au fait qu'avec le niveau de prélèvement obligatoire qu'on a, est-ce que l'on peut continuer?
Débattons.
Mais non, on n'a pas fini d'en débattre, et comme vous le dites, ça ne fait que commencer là, la nouvelle histoire.
Bien sûr.
Bon, merci d'avoir été là. On a tranché au moins un débat à la chocolatine.
J'espère qu'elle sort le mot chocolatine sort le grand vainqueur de ce débat.
Allez, c'est fini, merci beaucoup.
Il n'y a plus de débat.
Jean-Marc Daniel, Frédéric Farah, Xavier Thimbault, rendez-vous demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux.
Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.